Bill Wirtz, bonjour, bienvenue dans Parlons Ferme, le nouveau podcast de la vie agricole. Vous êtes analyste politique principal du Consumer Choice Center. Vous dites vous concentrer spécifiquement sur l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, ainsi que sur la politique agricole et commerciale. Vous étiez, il n'y a pas si longtemps, de passage au Canada. On vous a d'ailleurs rencontré à Montréal. Il y a d'ailleurs un texte sur la vie agricole.com qui en réfère. Mais dans un premier temps, pour les auditeurs qui écoutent notre podcast, Bill Wirtz, quel est votre parcours et quel rôle vous jouez dans votre association, notamment auprès de la Commission européenne?
Ah, déjà, merci pour l'invitation. Alors, comme dit mon nom, c'est Bill Wirtz, je suis d'origine du Grand-Duché de Luxembourg. Donc, c'est un tout petit pays au sein de l'Europe de l'Ouest. Et je me concentre surtout sur la politique agricole au sein de Consumer Choice. Nous sommes un groupe de consommateurs et on essaie d'avoir plus de commerce extérieur avec d'autres pays et aussi plus de choix pour les consommateurs. En gros, ça veut dire qu'il faut se baser sur la science et sur les fondements qui aussi sont les fondements de l'Europe. Le fondement de l'Europe, ce que beaucoup de gens savent sûrement, c'est l'idée de faire du commerce entre les pays membres de l'Union européenne. Ce qui a agrandi notre PIB, agrandi nos choix, et pourquoi pas faire la même chose avec d'autres pays qui nous sont avec lesquels on a des amitiés. Donc en gros, on veut avoir un système dans lequel tous les consommateurs peuvent se permettre d'acheter ce qu'ils veulent dans le supermarché et avoir aussi accès à des produits nouveaux. Malheureusement, en Europe, on n'est pas sur le point nécessairement de toujours faire des politiques qui nous aident à venir à ces buts. Et c'est pour ça qu'on fait des consultations auprès de la Commission européenne, on fait du lobbying classique auprès des parlementaires au Parlement européen. Et voilà. Et sur mon parcours, alors moi, j'étais pendant très longtemps journaliste. J'étais chez RTL Radio Luxembourg. Je faisais des enquêtes pour des magazines au Luxembourg. Et j'ai aussi écrit à travers la panoplie des journaux européens et aussi américains. Sur la politique européenne. Donc c'était dans Die Welt, Le Monde, Le Figaro, j'ai écrit un peu partout pour argumenter pour une voix de consommateur qui ne se concentre pas sur comment réglementer toutes les nouvelles choses, comment toujours voir le mauvais dans toute nouvelle innovation, mais d'être positif envers les choix des consommateurs et les nouvelles technologies.
Alors, vous êtes passé effectivement de journaliste à analyste d'une certaine façon et lobbyiste en fait. Et vous défendez en fait et la science nouvelle et le libéralisme. On y reviendra tout à l'heure en fin d'entrevue peut-être sur le libéralisme. Mais concernant la science nouvelle, d'abord, peut-être expliquer clairement parce qu'on parle beaucoup en ce moment de CRISPR, hein, CRISPR qui est le génomique, alors qu'on connaissait bien les OGM. Peut-être juste en quelques mots expliquer aux auditeurs c'est quoi la différence entre les OGM et le CRISPR.
Alors, en gros, les auditeurs vont connaître tout le débat sur les OGM. Et les OGM, enfin, ce n'est pas nécessairement un terme suffisamment technique, mais en gros, vous avez tous les systèmes de mutagenèse. Donc, ça veut dire que vous utilisez, pour vraiment le simplifier, vous utilisez les propriétés génétiques d'une plante pour le transposer à une autre pour avoir un résultat. Pour vous donner un exemple, en Inde, dans les années 90, on s'est posé la question comment avoir des crops, enfin des plantes qui résistent au temps très difficile, la raining season en Inde, et donc pourquoi ne pas utiliser les propriétés génétiques d'autres plantes pour les transférer à celles qu'on essaye de manger. Donc ça, c'est les OGM classiques. Et dans le génie génétique, dans CRISPR, qui est beaucoup plus récent, tout ce qu'on fait, c'est en fait d'enlever les propriétés génétiques qui ne sont pas désirables. Et en gros, gene editing, dans le mot anglais, en gros, veut dire qu'on a juste enlevé de façon très précise les propriétés qui sont indésirables. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut élargir le temps dans lequel les fruits and vegetables vont être, la durabilité des tout ce qui est fruits and vegetables, et aussi ça nous donne la possibilité d'utiliser moins de ressources, parce que vous pouvez par exemple créer, enfin enlever la nécessité d'eau de certaines variétés. Vous pouvez aussi enlever les propriétés génétiques qui causent des allergies. Donc par exemple, l'université de Wageningen aux Pays-Bas a créé des noix qui ne causent pas des allergies auprès des consommateurs qui ont ces allergies. Donc ça vous donne énormément de possibilités, et ça d'ailleurs nous a donné aussi la possibilité de créer deux des grands vaccins contre le Covid, qui lesquels étaient d'ailleurs aussi autorisés en Europe d'une façon d'une dérogation spéciale. Mais donc cette technologie nous n'est pas étrange, et enfin n'est pas étrangère aussi à l'Europe. Et c'est ce qu'il faut savoir aussi pour les Européens, ce qui est très ironique, c'est que cette technologie a été développée à travers d'une scientifique française, oui, Emmanuel Charpentier.
Emmanuel Charpentier, justement, j'allais y venir, qui a reçu d'ailleurs un prix Nobel. Oui. Parce qu'en fait, le CRISPR que vous nous expliquez, en fait, qui est une façon, quand vous parlez notamment des noix, une façon en fait d'obtenir des produits qui justement répondraient à des problématiques, puisque les allergies sont une problématique entre autres avec les noix ou les arachides, par exemple. Mais et vous dites d'ailleurs dans votre ambition de Consumer Choice Center, vous avez même l'ambition qu'on retrouve des produits CRISPR dans nos assiettes en 2033. Moi, j'avais dit qu'on va être passé à Montréal. Donc, vous voyez ça sur une décennie où on pourrait finalement accepter d'avoir des produits pour l'alimentation qui soient issus de CRISPR. Mais par contre, tout le monde n'est pas au même rythme là-dedans, puisque je crois comprendre que par rapport aux lectures, aux échanges qu'on a eus, le Japon a déjà autorisé certaines applications, l'Europe traîne pas mal la patte, et tous les continents ne sont pas au même diapason, on va dire.
Justement, et bah, juste pour vous dire, si ce serait sur mes ambitions, ce serait demain que ce serait déjà autorisé. Enfin, le 2033, c'est plutôt sur la réalité des choses et la réalité de l'Europe. Il faut savoir que nos institutions, ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir toutes les négociations entre la Commission, le Parlement, le Conseil européen. Et donc, de façon réaliste, je vous dis 2033. Après, on verra ce que ça donne. Il faut savoir qu'il y a des États membres en Europe qui sont contre, et c'est pas seulement les classiques protectionnistes ou enfin les écologistes qui ont, enfin, de façon traditionnelle en Europe, avoir eu beaucoup de scepticisme envers ces nouvelles technologies, mais c'est aussi politiquement à droite, enfin les pays plus conservateurs.
Parce qu'on a toujours toujours la perception effectivement que la gauche ou les écologistes sont les résistants à la science nouvelle. Mais à vous lire, en fait, on voit que les partis populistes comme Orban, par exemple, en Hongrie, que les extrêmes, en fait, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, finalement, sur ce point, d'ailleurs comme sur certains autres points, mais on ne le voyait pas forcément par rapport à la science nouvelle, que sur ce point, l'extrême droite comme l'extrême gauche sont plutôt similaires pour être contre la science nouvelle.
Oui, enfin... Oui, c'est ça tout à fait. Donc, les extrêmes se rejoignent sur ces sujets de science. Il reste encore un centre en Europe qui est pour. Vous avez aussi, par exemple, dans les pays nordiques, où enfin, même les écolos sont pour le nucléaire. Donc, enfin, il y a toujours des différences entre les pays différents, mais c'est problématique. Donc, si on regarde en ce moment la scène politique française, évidemment, c'est de plus en plus un problème quand il y a un centre qui diminue, et les extrêmes des deux côtés qui sont contre le commerce extérieur, qui sont contre les nouvelles sciences, contre les traités commerciaux. Ça c'est un vrai problème. Donc en Europe, si on fait des prédictions, enfin si on dit oui ça va être légal en 2033, peut-être il va y avoir des élections dans différents pays, ça va changer, ça va s'accélérer, mais enfin pour être réaliste, je dis à peu près dans 10 ans.
Est-ce que la réaction que vous percevez en fait sur les extrêmes, sur la population, on va dire, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui maintenant représente une grande portion de la population quand même en Europe, cette résistance, elle est identique autant sur les OGM, sur CRISPR, que sur l'intelligence artificielle, par exemple sur l'IA. Est-ce qu'on a la même crainte de l'IA?
Non, on ne l'a pas, c'est parce que il n'y a pas eu du lobbying d'organisations comme Greenpeace depuis 20 ans contre l'IA. Et ça, c'est la grande différence. Il faut savoir que le ministre de l'Agriculture et la ministre des Affaires étrangères en Allemagne en ce moment. Bon, là le gouvernement allemand vient de tomber, mais ces ministres-là avaient des conseillers officiels qui travaillaient pour Greenpeace International avant. Donc, c'est des organisations dans le mainstream politique qui, depuis des décennies, racontent des mensonges sur les OGM et aussi depuis le développement du génie génétique, sur le génie génétique. Donc, ils vous parlent de Frankenfoods, que c'est mauvais pour la santé, que ça cause le cancer, donc ils racontent n'importe quoi. Et beaucoup de ces organisations sont aussi financées par la Commission européenne. Le dilemme pour la Commission européenne, c'est qu'ils essayent de convaincre la population que, enfin, il faut légaliser le génie génétique, tant qu'ils ont donné des milliards à des organisations qui, depuis des années et des décennies, nous expliquent que c'est mauvais pour la santé. Donc, vous imaginez un peu le débat politique, comment ça se passe. Beaucoup de consommateurs ont peur. Ouais.
Et au Canada, vous êtes venu, donc au Canada, vous étiez à Ottawa pour donner des conférences, et vous êtes après ensuite allé, je pense, rencontrer aussi des producteurs. Vous avez rencontré des producteurs et des décideurs à Ottawa, ensuite des producteurs à Drummondville. C'est quoi votre expérience au Canada? Comment vous avez trouvé vos échanges? Alors, que ce soit avec les fonctionnaires fédéraux que vous avez vus à Ottawa ou que ce soit avec les producteurs que vous avez vus sur le terrain à Drummondville.
Oui, il y a les deux côtés. Alors, les décideurs politiques que j'ai pu rencontrer, enfin, les bureaucrates auprès des ministères que j'ai pu rencontrer à Ottawa, c'est que ils essayent en fait de garder ce consensus qu'on avait sur l'accord CETA pour dire qu'est-ce que le Canada peut faire pour convaincre l'Europe de devenir moins protectionniste. Et moi, je leur ai dit, écoutez, il faut que le Canada demande plus à l'Europe et dit, écoutez, on a eu un consensus sur faire du commerce équitable entre nos deux blocs et il faut le garder. Parce qu'en ce moment, l'Europe essaye de réglementer, pas seulement en Europe, mais aussi au Canada, en expliquant au Canada, si vous ne produisez pas exactement de la même façon environnementale, sociale et phytosanitaire que nous, on ne va pas vous donner le droit d'exporter vers l'Europe.
Ça rejoint aussi le débat sur le Mercosur. Vous savez qu'en Europe, actuellement, il y a un front très très fort de l'ensemble de la population, de l'ensemble même des syndicats agricoles qui sont complètement contre le Mercosur, contre le libre-échange dans le cadre du Mercosur.
Pas tous, enfin, il y a des associations qui sont contre et il faut aussi les segmenter. Il faut savoir que les producteurs de vin français et de fromage français ont beaucoup d'intérêt de pouvoir exporter vers des pays comme l'Argentine ou le Brésil. Mais il y en a d'autres qui sentent la rivalité en disant le bœuf argentin, il va être plus désirable que celui qui est français ou irlandais. C'est pour ça que l'Irlande est contre aussi. Donc il y a des intérêts segmentés et en ce moment, on a ce jeu politique qui se joue à cause des priorités de la politique française, qui est malheureux. Parce que le Mercosur, on le négocie depuis les années 90, on a recommencé en 2019, on avait une pause avec Bolsonaro, et là on recommence. Enfin, c'est toujours les considérations politiques qui jouent avec. Donc, tant qu'il y a une élection qui est proche, c'est problématique.
Avez-vous trouvé les Canadiens plus pragmatiques que les Européens dans vos approches ?
Oh, tout à fait. Enfin, c'est ce que je peux voir dans le processus politique canadien. On n'utilise pas les relations commerciales avec d'autres pays comme pour gagner des élections. Je pense qu'on est beaucoup. Les Canadiens me semblent beaucoup plus sobres sur ça, et aussi des bureaucrates beaucoup plus intéressés par des arguments différents en essayant de comprendre la science et les avantages des différentes industries. Je trouve qu'en général, de ce que j'ai pu voir dans les ministères au Canada, c'est beaucoup plus d'intérêt de trouver un consensus comparé à l'approche européenne qui essaie juste de gagner quelques points avant des élections. Donc je trouve que le système est beaucoup plus adulte comparé au nôtre.
Alors le système est beaucoup plus adulte au Canada qu'en Europe, vous nous dites. Et quand vous avez rencontré les gens sur le terrain, notamment, je pense que vous rencontriez des gens du syndicat de l'UPA et des producteurs représentants de l'UPA à Drummondville. Comment vous les avez perçus quant à la science nouvelle, quant à CRISPR, quant aux traités internationaux comme Mercosur? C'était quoi les échanges avec eux? Quelle est leur lecture de tout ça?
On a moins parlé de traités commerciaux et de nouvelles technologies qu'on a discuté du système réglementaire. Et je pense que là, il y a un truc très intéressant que j'ai trouvé. Quand je compare le niveau de subvention qu'on donne en Europe comparé à ce qui est donné au Canada, tous les producteurs sont toujours surpris. Oh, pourquoi les producteurs européens peuvent se plaindre, ils reçoivent tellement de subventions. Et je leur dis, oui, mais il y a un retour politique là-dessus. C'est parce que quand le gouvernement vous donne tellement d'argent pour chaque hectare. Ils vous demandent aussi des efforts et une réglementation qui vient avec. Donc, vous avez beaucoup de paperasse, beaucoup de réglementations qui viennent avec. Et donc, si vous acceptez plus d'argent du gouvernement, alors vous avez aussi le retour de la bureaucratie. Et ça, je pense que ça a été très intéressant pour les producteurs de voir, c'est de voir les différences et que si vous acceptez que le gouvernement vous impose une responsabilité face au chauffement climatique en vous disant que oui, il faut faire des efforts et c'est l'agriculture qui en est responsable, alors vous vous retrouvez comme les producteurs européens dans un impasse dans lequel chaque problème est toujours sur-subventionné, on vous réglemente puis on vous subventionne et après vous vous retrouvez dans une situation où vous ne connaissez plus vraiment le coût réel de la production. Quel est le coût réel d'une pomme dans un supermarché? On ne le sait plus parce qu'en Europe, en subventionne cette pomme avec, pour les producteurs et en même temps elle est taxée et on paye de plus en plus cher quand on l'achète. Donc on a beaucoup parlé de ça, le coût de la réglementation et évidemment avec le discours international en ce moment sur le libre-échange qui est de plus en plus négatif, je pense que les producteurs s'intéressent beaucoup plus aux réglementations local que national. Et ça, je trouve ça malheureux parce que moi, je pense que les producteurs canadiens devraient penser beaucoup plus à comment est-ce qu'on peut vendre nos produits en Europe. Mais avec toutes les questions de traçabilité et des réglementations spécifiques et quels produits phytosanitaires pouvez-vous utiliser, je pense que beaucoup de producteurs n'ont plus en vue cette idée de comment est-ce qu'on va exporter vers l'Europe. C'est plutôt comment est-ce qu'on va survivre au Canada. Et ça, c'est. Moi, je trouve ça. Je trouve ça un peu déprimant si je vois il y a moins d'ambition de regarder vers l'extérieur.
Alors, si je comprends bien en conclusion, il faut avoir encore une ambition pour la mondialisation, selon Bill Wirtz. Merci Bill Wirtz, analyste politique principal du Consumer Choice Center, d'avoir été avec nous à Parlons Ferme aujourd'hui. Bonne journée.